Radio Okapi.
Le journal Blaise Jordan Chintani Kambala.
Au moins 4 civils tués et un déplacement massif de la population ce jeudi dans plusieurs localités du territoire de Massissi suite aux affrontements entre la rébellion AFC M23 et les combattants Wazalendo alliés au FARDC. Dans le territoire de Luozi au Congo central, la maladie suspectée d'être une méningite bactérienne a déjà fait 9 morts depuis le 31 janvier dans 6 villages touchés par cette épidémie. Le coordonnateur du Conseil interreligieux congolais, archevêque Dodo Kamba, a affirmé vendredi 13 février vouloir baliser la voie vers un dialogue non seulement inclusif, mais également sincère et utile. Il consulte pour cela des acteurs politiques et sociaux du pays. Ce thème a été traité au cours de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir. Vous allez suivre tour à tour les intervenants dans cette émission. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal du matin. Au Nord Kivu, les affrontements entre la rébellion AFC M23 et les combattants Wazalendo alliés au FARDC se sont poursuivis ce jeudi dans plusieurs localités du territoire de Massissi. Selon des sources locales, les combats se concentrent autour des villages Katovu, Machaki et Luke. On parle d'au moins 4 civils tués et un déplacement massif des habitants. Les détails avec vous, Kanish Mukongo Fwanikizi.
De nombreuses sources décrivent une situation confuse dans les territoires des Massissi. Alors que les coalitions Wazalendo qui appuyaient l'armée congolaise venaient de reprendre plusieurs villages, une contre-offensive de l'AFC M23 est signalée depuis 2 jours pour repousser ses avancées. Mercredi, les rebelles auraient repris Kaniro ainsi que Kasseni et Katobotobo dans le groupement des Kibabi premiers. Ce jeudi matin, les combats se sont intensifiés à Kotoyu, à seulement 6 km du chef-lieu du secteur de Katoyi, reconquis la semaine dernière par les Wazalendo du groupe Pareco. D'autres affrontements sont signalés dans le village des Machaki, près de Kazinga, groupement des Nyamaki, Maboko premier ainsi qu'à Kibande et Luke le long de l'axe Mahanga. Cette recrudescence d'hostilité accentue les inquiétudes au sein des populations locales. Selon nos sources, les habitants de Mahanga qui fuyaient les combats mercredi seraient tombés dans une embuscade à Kasunja. Au moins 80 vaches ont été emportées et 3 bergers tués. En représailles, les éléments de la FCM23 auraient abattu un jeune du milieu et enlevé un autre, ajoute le même source.
La situation n'est pas non plus meilleure dans la province du Maniema qui connaît une recrudescence des cas d'insécurité. Face à cette situation, la nouvelle dynamique de la société civile tire la sonnette d'alarme et appelle les autorités à assumer pleinement leurs responsabilités. Dans une interview accordée à Radio Okapi ce jeudi 26 février, le président de cette structure citoyenne déplore le fait qu'il ne se passe plus une journée sans que l'on enregistre des incursions accompagnées des vols des biens, des valeurs sous les yeux des autorités locales. Maître Michel Yuma Kasonda exhorte les dirigeants à faire de la sécurité une priorité afin de garantir la quiétude des populations. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Parlant de la situation sécuritaire en province, c'est très déplorable. C'est attristant. Depuis le début de l'année 2026, il ne se passe plus une seule journée sans qu'on enregistre les cas d'insécurité dans la ville de Kindu, pourquoi pas dans la province du Maniema. Les bandits mais armés font la fureur dans la province du Maniema, surtout dans la ville de Kindu. Comment expliquer, madame, quelqu'un qui a cherché les biens pendant 15 ans, que ces biens-là soient emportés par ces bandits en une seule journée? C'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer, ce n'est pas l'argent qui manque en province pour éradiquer tous les cas possibles en ce qui concerne l'insécurité dans la ville de Kindu. Et c'est peut-être pour nous un plaidoyer, pourquoi ne pas prendre ne fût-ce qu'un seul mois par rapport à la taxe conventionnelle pour acheter des véhicules qui puissent faire les patrouilles, qu'ils soient nocturnes ou bien diurnes. Donc, nous sommes abandonnés à notre triste sort jusqu'à tel point que nous ne savons plus à quel saint se vouer.
Je le disais en titre, dans le territoire de Luozi au Congo central, la maladie suspectée d'être une méningite bactérienne continue de se propager dans la zone de santé de Mangembo. Selon le bulletin épidémiologique publié mercredi par la division provinciale de la santé, 24 cas ont été notifiés depuis le début de l'épidémie et 6 villages sont désormais touchés. Nana Plurich Mambou nous en dit plus.
Dans ces documents, les autorités sanitaires précisent que les activités de riposte sont en cours. Elles annoncent notamment la mise en place de l'équipe provinciale de gestion de l'incident et l'élaboration du plan de préparation et de réponse à l'épidémie. Cette semaine, 2 nouveaux cas ont été enregistrés sans décès, ce qui porte à 24 le nombre total de personnes touchées dans l'aire de santé de Bienga dans le secteur de la Kingi. Parmi ces 24 cas, 15 hommes et 9 femmes, 9 décès ont été rapportés depuis le 31 janvier. Les villages touchés sont Kinkanga, Lundu, Madimba, Kinkombo, Yambi et Kinkondibila. 13 échantillons ont été prélevés sur des cas suspects et envoyés à l'INRB. Le taux de positivité est de 42%. D'autres échantillons prélevés depuis les centres de traitement des méningites de Bienga viennent également d'être acheminés. La maladie se manifeste par de fortes céphalées, suivies parfois des pertes de connaissances, et peut évoluer rapidement vers les décès. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Après plusieurs années scolaires, le gouvernement dote les 60 provinces éducationnelles de bulletins cartonnés. Lors de la clôture de l'atelier sur la modernisation de la gestion des données de l'examen d'État mercredi à Kinshasa, la ministre d'État à l'Éducation nationale a remis de manière symbolique aux inspecteurs principaux provinciaux de lot de ces bulletins de l'année scolaire 2025-2026. L'inspecteur général à l'Éducation nationale recommande la gestion orthodoxe de ces documents. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces bulletins sont faits prêts pour les cycles préscolaires, les primaires, les secondaires et les terminales. L'inspecteur général de l'éducation nationale explique la qualité de ces documents scolaires importants à travers leurs couleurs respectives. Hubert Kimboza.
Associer la couleur rose au niveau préscolaire. Le niveau primaire est un niveau qui a le plus grand nombre d'entrées. Raison pour laquelle, pour les primaires, ça sera la couleur verte. Et les niveaux secondaires, ça sera le bleu. Le terminal pour les évaluations, ça sera la couleur blanche.
Ça sera une première depuis des décennies où il était improbable que les élèves reçoivent leur bulletin à la clôture de l'année scolaire. Pour sa part, les porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants saluent cette action qui, selon lui, permettra aux enseignants d'effectuer correctement leur travail de pondération de Maxima. Jean Bosco Pouna.
C'est une action que la synergie des syndicats des enseignants de la RDC salue, dans la mesure où cela va permettre aux enseignants de faire correctement le travail de pondération de Maxima et de disponibiliser les bulletins.
Les années scolaires passées, le ministère de l'Éducation nationale avait attribué aux établissements scolaires des bulletins provisoires pour ne pas entraver la poursuite scolaire ou la certification.
Début ce mercredi à Kananga, au Kasaï central du Forum national des leaders communautaires consacré à la lutte contre les violences basées sur les genres et à la promotion de la masculinité positive. Cette rencontre est organisée par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMD avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement grâce au financement du Canada. Ce forum vise à offrir un cadre d'échange et de partage d'expériences pour renforcer la mobilisation collective en faveur de la dignité, de l'égalité et de la protection des femmes et des filles. Reportage signé André Katindengala Mouloumé.
Pendant 3 jours, du 25 au 27 février, des leaders communautaires et religieux, des autorités politico-administratives, de partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de la société civile, se réunissent à Kananga pour définir des stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre. Les participants arrivent des provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, ainsi que des Kinshasa. Selon Nathalie Kambala-Lousset, directrice générale de la FMDI, ce forum entend renforcer les actions menées contre les violences basées sur le genre, communément appelées VBG, tout en encourageant la promotion d'une masculinité positive au sein des communautés. 3 grands thèmes structurent les échanges, l'apport du gouvernement et des partenaires techniques et financiers dans la promotion de l'égalité de genre en RDC, la transformation des normes sociales pour prévenir les violences et les cadres juridique ainsi que l'accès aux services des prises en charge pour les survivantes. Ce forum se veut ainsi une plateforme stratégique pour harmoniser les efforts et renforcer la lutte contre les VBG dans les provinces du centre du pays. Kananga, André Katendengala Mulumé, Radio Okapi.
À Bandundu-Ville, pendant ces temps, les travaux de réhabilitation de l'aéroport national avancent bien selon la régie des voies aériennes RVA. Selon le commandant de la RVA Bandundu, Fils Mouima, la piste sera opérationnelle d'ici quelques semaines. Elle devra accueillir les délégations de gouverneurs des provinces attendues pour la 13e conférence des gouverneurs prévue du 24 au 28 mars. Fils Mouima apporte d'autres précisions sur l'état d'avancement des travaux au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement.
Nous sommes en plein chantier. Il y a Safrimax qui a gagné les marchés, qui sont déjà sur la piste, en train d'avancer avec les travaux de réhabilitation de la piste et des aires de stationnement. Il y a l'aérogare que vous pouvez constater. Je vous invite, dans une semaine, vous allez voir une nouvelle robe de l'aérogare. Et on est en train d'amener la sécurité à bonne et due forme et la sécurité comme il se doit. Et que la population de Bandundu soit assurée et qu'il protège aussi les infrastructures actuelles. Et dans moins d'un mois avant la 13e conférence, je vous dis que non, je vous assure que non, il y a le balisage qui seront ici et ils peuvent assister aussi les vols de nuit qu'ils vont admirer.
Province du Haut-Katanga, fin ce mardi du partenariat entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et l'association Les Amis du Zoo de Lubumbashi Azlou pour la gestion du zoo de Lubumbashi. D'après certaines sources, ce partenariat prend fin dans un climat de tension entre les deux parties après 15 ans de collaboration. Paul Mounanga revient sur ce partenariat et sur l'importance du jardin zoologique de Lubumbashi qui est l'un des rares en RDC.
Le partenariat a été signé le 24 février 2011 entre l'ICCN et la Zulu. Dans ce partenariat, la Zulu couvrait notamment toutes les dépenses liées à l'entretien du zoo, les soins des animaux ainsi que l'alimentation des carnivores. Ce partenariat arrive à terme et dans son rapport, l'ICCN juge non satisfaisante cette collaboration. Il dénonce un manque de transparence dans la planification et l'exécution des activités, rapporte certaines sources. La fin de ce partenariat pourrait mettre en difficulté les zoos de Lubumbashi pour sa gestion, estime une certaine opinion. Docteur Jean-Claude Binemo, médecin vétérinaire du zoo de Lubumbashi, revient sur l'importance de ces jardins zoologiques.
Les zoos de Lubumbashi permet aux élèves de venir voir ou renforcer la capacité de ceux qui étudient. S'ils étudient en zoologie, ils voient par exemple les parties de l'éléphant, les lions, mais ils viennent maintenant au zoo pour visualiser ce qu'ils ont étudié. Le zoo de Lubumbashi aide aussi plusieurs chercheurs comme des étudiants. Il y a aussi, sur le plan protection, on aide aussi à sensibiliser, à montrer aux gens que non, il faut respecter la faune et la flore et de leur mettre l'idée de la protection de la nature et du respect de l'environnement.
Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Revenons encore une fois au Kasaï central. Un hippopotame a tué mercredi une fillette de 11 ans dans les villages Mwenambulu, dans les secteurs de Lueta, territoire de Luisa. Ce nouveau drame survient un mois seulement après la mort d'une femme dans des circonstances similaires dans ces mêmes villages. Et selon plusieurs sources locales, des hippopotames quittent régulièrement la rivière Kasaï pour s'aventurer dans la communauté, provoquant peur et désolation parmi les habitants. Ceux-ci appellent les autorités à intervenir rapidement pour mettre fin à cette situation dangereuse.
Actualité internationale.
Dans un mémorandum remis jeudi 26 février à l'ambassade du Maroc à Dakar, le collectif des supporters de l'équipe nationale du Sénégal estime que les 18 supporters sénégalais condamnés par la justice marocaine à des peines allant jusqu'à un an de prison ferme à la suite des incidents qui ont émaillé la finale de la CAN 2025 sont injustes. Il entend ainsi protester contre leur détention.
L'invité.
Le coordonnateur du Conseil interreligieux congolais, archevêque Dodo Kamba, a affirmé vendredi 13 février vouloir baliser la voie vers un dialogue non seulement inclusif, mais également sincère et utile. Il consulte les acteurs politiques et sociaux du pays en vue de la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, avec comme objectif de recueillir les avis des acteurs politiques et sociaux sur le mécanisme de réconciliation susceptible de ramener une paix durable stable en République démocratique du Congo. Ce thème a été traité au cours de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir. On écoute les réactions des intervenants au micro de Jean-Marc Matouaki Mofelele.
Cheikh Amin Katembo, vous êtes le coordonnateur adjoint du secrétariat technique du Conseil interreligieux congolais. Quelle est la raison d'être de cette initiative et pourquoi en cette période?
Très bien. Le Conseil interreligieux congolais, je pense qu'il est essentiel que je revienne ne serait-ce que brièvement sur ce qu'est le Conseil interreligieux congolais pour planter le décor. Le Conseil interreligieux congolais, c'est une organisation interconfessionnelle, c'est-à-dire la loi congolaise a mis en place un mécanisme qui permet à ce que les organisations confessionnelles se mettent ensemble pour travailler dans une même dynamique, dans le cadre évidemment de la société civile. En tant que tel, donc membre de la société civile, les confessions religieuses ont évidemment le droit de participer à la vie nationale en apportant contribution, n'est-ce pas, à ce que certains problèmes qui se posent à notre société puissent trouver des voies de sortie, des voies de solution.
Mais le fait de suggérer la commission vérité et réconciliation avant les dialogues nationaux inclusifs, oui, c'est pas mettre la charrue avant le bœuf.
Oui, tout le monde a l'habitude de dire ça. Et on peut donner une réponse courte à cette préoccupation-là, c'est de dire pourquoi forcément le faire après? Parce que tous ceux qui disent que la commission vérité et réconciliation doit venir après, ils se basent sur ce que nous connaissons depuis toujours. En fait, c'est la tendance de dire faisons la même chose et voyons si le résultat sera différent. Je ne veux pas évoquer l'adage qui dit que c'est... voilà. Mais nous pensons qu'il y a moyen de faire les choses autrement.
Katembo, merci pour cet éclairage. Alors, Monsieur Ferdinand Kambere, vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD. Quelle est votre analyse sur cette initiative, justement, du Conseil interreligieux congolais, CIC, de préconiser la mise en place d'une commission vérité-réconciliation avant la tenue d'un dialogue national inclusif?
Effectivement, une lettre de CIC et qui voulait nous rencontrer en tant que parti politique. Mais je crois que là-dedans, nous avons été clairs dans notre lettre du 20 que nous les remercions pour l'intérêt qu'ils avaient à écouter aussi le PPRD, mais que le contexte était celui où le PPRD est vraiment sous un régime répressif à outrance. Et aujourd'hui, nous avons été clairs qu'on n'est pas disposé, s'ils pouvaient commencer par là, pour exhorter ce pouvoir de mettre en place la décrispation du climat politique et permettre à ce qu'il y ait un débat qui est apaisé entre toutes les parties, on serait disposé.
Nous allons nous tourner maintenant du côté de monsieur Itiel Batoumi, qui est analyste politique à Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique et la violence en République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction?
Je pense que la démarche est louable parce qu'on est dans un contexte où la nation est fortement polarisée. On a d'un côté les gens qui sont considérés comme des patriotes, et d'autres qui sont considérés comme des traîtres. Et ça, la conséquence, c'est qu'il y a une forte méfiance qui s'accroît entre les camps de ceux qui pensent qu'ils sont patriotes et de ceux qui sont taxés d'être des traîtres. Et la nation a besoin de l'unité et de la cohésion pour pouvoir résoudre la crise sécuritaire qui secoue le pays depuis 2021, mais on peut aussi dire depuis plus de 30 ans, comme l'a dit l'imam qui est dans le studio. Je pense qu'il y a nécessité d'avoir cette démarche de vérité et de réconciliation pour pouvoir affronter la crise que traverse le pays pour l'instant. Cependant, je partage les critiques qui sont formulées par Monsieur Ferdinand Kambere, parce qu'en réalité, je pense que la démarche vient poser en fait la charrue avant le bœuf, parce que lorsqu'on regarde en réalité les processus de vérité et réconciliation qu'on a eu par le passé dans ce pays, il y a eu d'abord dialogue intercongolais à Sun City, et à l'issue de l'accord trouvé à Sun City, il y a eu maintenant la création de la commission vérité et réconciliation comme l'une des institutions d'appui à la démocratie lors de la transition de 2003-2006. Donc aujourd'hui, il est difficile de pouvoir poser la commission vérité et réconciliation comme une démarche qui puisse précéder les dialogues. Je suis d'accord avec Ferdinand Cambéré qu'il faut d'abord dialoguer pour pouvoir arriver à créer la commission Vérité et Réconciliation.
Vous pouvez réécouter cette émission et ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net. Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal du matin, coordonné et supervisé par Alain Irung Mouchige et mis en onde par Alain Goy. Merci et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix avec Christelle Fritimangois.